Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux. Avec vous, Xavier Martinet, bonjour.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Au programme aujourd'hui, une question, gouverner l'Espagne, est-ce un parcours piégé pour Pedro Sánchez?
Oui, en tout cas le Premier ministre socialiste espagnol est sous haute pression entre les manifestations de la droite qui lui reproche son rapprochement avec les indépendantistes, l'accuse de trahison et un vote sur le budget socialiste crucial aujourd'hui, 7 mois après la chute des conservateurs. Pedro Sánchez a-t-il déjà épuisé toutes ses cartes? On voit ça avec vous, Barbara Loyer, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu, politologue, spécialiste de l'Espagne, enseignante en géopolitique à l'université Paris 8. Et puis d'abord, puisque c'est l'actualité, ce procès des indépendantistes pour rébellion et sédition ouvert hier à Madrid. Carles Puigdemont, qui lui est en Belgique, parle de mascarade, un test de résistance aussi pour la démocratie espagnole. Est-ce qu'il y a une chance qu'il se déroule sans politisation excessive?
C'est difficile de faire plus politisé que ça ne l'est maintenant. Donc on est au contraire dans quelque chose qui est fondamentalement, je dirais, politique en Espagne. C'est-à-dire que c'est la première fois maintenant depuis la transition que la question du rapport entre l'État et la nation espagnole est posée de manière aussi forte et centrale. Jusque-là, la question de l'unité de la nation espagnole était une sorte de problème qu'on mettait prudemment sous le tapis, et puis on s'accordait comme on pouvait avec des nationalistes régionaux, tout en combattant contre le terrorisme qui était finalement le problème principal. Il se trouve que paradoxalement, cette crise catalane, je ne sais pas si c'est un paradoxe, elle éclate au moment où le TA termine sa course meurtrière, et du coup, ça repose la question de la nation espagnole, mais d'une manière un petit peu différente.
Et alors justement, pour poser la question dans l'autre sens, est-ce que ce procès a une possibilité d'offrir une issue à cette crise politique et constitutionnelle de la République espagnole?
Non, il n'y aura pas d'issue à la fin du procès. D'abord, je ne sais pas ce qu'il y aura à la fin du procès, puisque je ne sais pas ce que décideront les juges, et je pense qu'ils ne le savent pas encore eux-mêmes. Et de toute manière, quelles que soient les décisions, qui seront différentes pour chacun des prévenus, la question existentielle de l'Espagne, elle est maintenant posée pour de longues années. Le panorama politique est bouleversé par le défi des indépendantistes catalans. Il est bouleversé en Espagne, et il est bouleversé à l'intérieur de la Catalogne, et il est bouleversé à l'intérieur du Parti Socialiste et de la gauche en général.
Et est-ce qu'il y a, du coup, il y a une chance que ce procès soit autre chose qu'une tribune politique et de
réaction ? Ça sera une tribune politique, c'est déjà une tribune politique, et c'est aussi une tribune, on va dire, de la démocratie espagnole, de l'État démocratique, de l'État de droit espagnol vis-à-vis des institutions européennes et des États européens, parce que c'est la raison pour laquelle le procès, il est diffusé en ligne, en direct, dans son intégralité. Les juges ont refusé qu'il y ait des représentants internationaux qui viendraient vérifier que l'Espagne est un état de droit protégeant comme il se doit les droits des accusés. L'idée, c'est que tout le monde puisse voir, observer, constater que l'état de droit fonctionne en Espagne, qu'il est solide et que les Espagnols n'ont pas de leçons à recevoir sur ce plan-là. Je pense que de ce point de vue-là, c'est aussi une tribune pour, je dirais, le système constitutionnel espagnol. C'est une tribune à bien des égards, on va dire.
Et alors, sans présumer de la conclusion, quel effet pourrait avoir ce procès sur le corps politique catalan? Je rappelle qu'il y a 12 prévenus, mais pas certains des principaux protagonistes, dont l'ancien président de la Generalitat, Carles Puigdemont, qui est toujours en fuite, ce qui lui a été reproché par Oriol Junqueras, lui qui se comparait dans le Figaro à Socrate ou Cicéron.
Alors encore une fois, je radote un petit peu, mais je tiens toujours à dire qu'il ne s'agit pas des Catalans. La moitié des Catalans ne votent pas séparatistes, et je pense que c'est quand même extrêmement important, parce que c'est là le problème. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un procès aujourd'hui. C'est que ce Parlement a voté une déclaration d'indépendance unilatérale, alors qu'il y avait 47% des électeurs qui avaient voté pour des députés qui avaient une majorité, du fait aussi d'un système électoral qui leur donne quelques députés de plus. Voilà. Donc du coup, si vous voulez, c'est important, parce qu'on est dans quelque chose dans lequel la représentation du peuple catalan qui est défendue devant ce tribunal, et face à ce tribunal, c'est un système de droit au sein d'une constitution qui est également défendue. Donc le résultat, j'en sais rien, il va dépendre beaucoup, je pense, de décisions qui sont pas encore prises au sein de l'indépendantisme catalan. Les indépendantistes catalans ne sont pas tous unis pour l'instant. Ils ont des problèmes entre eux parce que justement Puigdemont qui est en Belgique aimerait bien revenir d'une certaine manière, et donc il a tendance à être un petit peu radical dans ses réclamations, et donc Torra, l'actuel président de la Generalitat qui le représente, va dans ce sens-là, alors que le parti Esquerra Republicana de Catalunya est dirigé par Oriol Junqueras, qui lui-même est en prison, préférerait que Junqueras ne prenne pas 25 ans de prison, et donc ils ont rabaissé leurs exigences. Mais le procès peut aussi les rassembler. Donc en fait, déjà ça, du point de vue de ce que c'est que le séparatisme catalan, on ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas non plus si les antisystèmes d'extrême gauche vont décider que finalement il faut faire une pression dans la rue et qu'il y ait des désordres dans la rue. On ne sait pas non plus. Donc c'est beaucoup de décisions qui vont être prises. Et par ailleurs, il y a aujourd'hui un parti de nationalistes espagnols qui s'appelle Vox, qui a pris beaucoup d'importance, qui est parti civil dans le procès, qui se présente au mois de mai en Catalogne et qui va donc utiliser également ce procès comme une tribune politique pour avoir un très bon résultat en Catalogne, puisqu'ils ont eu un résultat inattendu aux dernières élections en Andalousie. Donc si vous voulez, ça peut changer les choses pour beaucoup de gens. Donc c'est, je pense qu'il vaut mieux pas trop faire de plans sur la comète. De toute façon, ça va entraîner des bouleversements. On ne sait pas à quel point, quel type de bouleversement ça entraînera à long terme. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui peut être prévu à long terme pour l'instant pour l'Espagne.
Pour revenir à Pedro Sanchez et ses rapports avec l'exécutif de Barcelone ou catalan, lui qui avait justement mené un processus d'ouverture, qui voulait, comme il le disait, normaliser les relations institutionnelles, qui avait largement augmenté le budget de l'exécutif, 2 milliards d'euros. Est-ce que ça va pas rendre caduque ce processus?
Alors le choix aussi du terme processus de normalisation, il est loin d'être anodin, puisque en fait une bonne partie de l'opinion espagnole pense qu'on est dans une situation totalement anormale et que ce que fait Pedro Sanchez, c'est radicalement anormal, puisque avant de prendre le pouvoir, il disait que Torra, donc l'actuel président de la Generalitat, avait des positions racistes et que ses revendications étaient anticonstitutionnelles, et que pour obtenir le pouvoir et donc le vote des indépendantistes catalans au Parlement espagnol, il a fait un demi-tour complet et il a négocié des accords, on va dire, qui semblent totalement anormaux à une grande partie de l'opinion espagnole. Donc, si vous voulez, il y a un parti socialiste qui essaye de se maintenir au pouvoir, donc de faire des concessions plus qu'un retour à la normale. On est là quand même dans un processus de concession à des alliés politiques. Et le paradoxe, c'est que ces alliés souhaitent la destruction de l'État espagnol tel qu'il est aujourd'hui. Donc c'est effectivement une situation quand même très paradoxale. C'est pour ça que quoi qu'on en pense, elle n'est pas exactement normale. Elle est surprenante, étonnante. On aurait du mal à imaginer une telle situation en France.
Et effectivement, avec un parti socialiste, Pedro Sanchez, arrivé au pouvoir sur motion de censure, destitution de Rajoy l'année dernière, lui-même minoritaire, je crois, avec 84 sièges seulement sur 350 au Parlement. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la marge de manœuvre de Pedro Sanchez, comme vous l'avez dit, qui doit faire un certain nombre de concessions à ses alliés, y compris la Podemos à gauche, est extrêmement limitée, notamment pour faire voter ce budget aujourd'hui, par exemple?
Elle est très limitée, depuis le début elle est très limitée, mais il est vrai qu'on peut aussi reporter le budget existant. Il n'est pas impossible de gouverner sans avoir pu faire voter un budget, ce qui serait un peu un paradoxe, mais puisque c'est un budget qui avait été élaboré par la droite.
Voilà.
Donc on serait de nouveau dans une situation paradoxale et dans laquelle je pense que le mot normal, là, il ne convient pas, quel que soit... Encore une fois, les opinions qu'on peut avoir, rien n'est normal pour l'instant en Espagne, c'est-à-dire tout est étrange et paradoxal. Tout est le simple fait, encore une fois, qu'un président de gouvernement dépende d'un parti ouvertement séparatiste, c'est franchement pas logique.
Et alors, est-ce qu'une des solutions possibles, comme l'avait déjà évoqué la semaine dernière la droite, ce serait encore une fois de nouvelles élections anticipées après celles de 2016, relancer les dés une nouvelle fois?
C'est ce que réclame aujourd'hui évidemment une grande partie de l'opposition. donc de Ciudadanos au centre Parti Populaire à droite et Vox maintenant à l'extrême droite. Le Parti Socialiste est traversé aussi de courants contradictoires. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient retourner aux élections, mais Pedro Sanchez pense que plus il va durer, mieux ça sera, et peut-être mieux ça sera pour son parti. Il est vraisemblable aussi qu'il y ait un certain nombre de socialistes qui se disent que c'est pas le moment de revenir aux élections parce qu'ils vont pas tout de suite les gagner. Il se trouve qu'ils viennent de perdre les élections en Andalousie. Donc repartir aux élections sur une défaite, d'un point de vue tactique, la situation elle est simple pour personne. Et elle n'est pas simple non plus pour le Parti Socialiste, sachant que ils veulent aussi gagner les élections à Barcelone. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de nationalistes qui reconquièrent la mairie de Barcelone.
Parce en mai prochain.
En mai prochain, ouais. Ça serait très important. Donc la situation est particulièrement complexe en Catalogne elle-même, puisque c'est Manuel Valls qui se situe entre Ciudadanos et le Parti Socialiste catalan. Donc dans une sorte d'entre-deux un peu particulier, tactique. Et c'est particulier parce que voilà, le procès, il a une ampleur sur les temps longs de l'histoire. Enfin, il a un impact sur les temps longs de l'histoire de l'Espagne. Et en fait, il est associé à des tactiques sur des temps très courts. Et c'est ça qui rend les choses difficiles à décrypter.
Eh bien, à suivre aujourd'hui pour le procès, puis jusqu'aux élections en mai. Merci beaucoup, Barbara Loyer, et bonne journée.